c'est avec Sarah Ders. Bonjour Sarah.
Bonjour.
À la une, l'Ukraine et le compte à rebours des Européens.
Pour tenter de réécrire le plan de paix américain, des pourparlers s'ouvrent en Suisse, on y sera dès le début de ce journal. À la une également, la Convention citoyenne sur les temps de l'enfant qui plaide pour une réforme d'ampleur des rythmes scolaires. Et enfin, si un hôtel particulier, Place des Vosges à Paris, se transformait en logements sociaux, reportage à la fin de ce journal. Des pourparlers sur l'Ukraine, sur le plan de paix élaboré par les Américains, jugé favorable à la Russie. Le rendez-vous est fixé aujourd'hui à Genève, en terrain neutre, entre Américains, Ukrainiens, Allemands, Français et des représentants de l'Union européenne. Une réunion surprise et dans l'urgence, Jérémy Lanche.
L'annonce a pris tout le monde de court ici, y compris les officiels suisses qui semblaient découvrir la tenue de la réunion en même temps que la presse. Le secrétaire américain à l'armée Dan Driscoll est le premier à avoir atterri à Genève hier, rejoint ce matin normalement par Steve Witkoff et le secrétaire d'État Marco Rubio. En face, une délégation ukrainienne essentiellement composée de militaires. Parce que si Kiev validait le plan de paix en l'état, cela voudrait dire que l'armée ukrainienne abandonnerait d'énormes pans du territoire à la Russie, en plus d'accepter de réduire ses effectif de 200 000 hommes, un seuil intenable pour se défendre face à l'armée russe qui a déjà l'avantage du nombre. L'objectif pour l'Ukraine est donc de tout faire pour amender le plan de Trump sans donner l'impression de le rejeter. C'est également la position des Européens qui pourraient se joindre à la réunion. Participation que ne confirment pas pour le moment les Américains.
Le secrétaire d'État américain Marco Rubio est effectivement arrivé ce matin à Genève. Donald Trump se dit finalement ouvert aux négociations, lui qui a fixé pourtant un ultimatum jeudi prochain à l'Ukraine sur son document de paix en 28 points. Un plan de paix décrié mais qui va servir de brouillon de base de travail des négociations de Genève. La délégation française va tenter de faire entendre une autre voie possible selon Yves Bertoncini, consultant en affaires européennes, enseignant au corps des mines.
Là, il y a quand même une concertation qu'il aurait fallu obtenir avant, mais qui au moins aura le mérite d'avoir lieu, sur la base d'un texte dont le président Macron a dit à juste titre qu'il fallait bien s'en emparer, puisqu'après tout, c'était une proposition de paix, mais qu'il n'a pas osé, c'est normal, qualifier de brouillon. Or, c'est ce que pensent les Européens. C'est un brouillon largement inspiré par les Russes.
On a l'impression que le désaccord est à peu près total sur une grande partie des points.
Oui, voilà, parce qu'il y a 28 points. Si vous voulez, faire des programmes éducatifs dans les écoles ukrainiennes et russes, ça passe. Le fait que l'Ukraine n'entre pas dans l'OTAN, de toute façon, les Européens avaient déjà dit non. Voilà, France-Allemagne en tête en 2008, donc ça, c'est un fantasme russe. Mais il y a en revanche toute une série de points qui sont problématiques, notamment en termes de concessions territoriales, de gains donnés à l'agresseur, d'utilisation de l'argent ukrainien à des fins mercantiles, et j'en passe.
Yves Bertoncini, enseignant au corps des mines au micro ce matin d'Adrien Becht. La Russie, de son côté, revendique la prise de 3 nouvelles localités dans l'est de l'Ukraine. Et dans ce contexte, le service militaire va-t-il faire son retour en France? Le gouvernement y travaille sur la base du volontariat, confirme ce matin sur France Info Alice Ruffo, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées.
Midi 3 sur France Info, la Convention citoyenne sur les temps de l'enfant plaide pour une réforme d'ampleur des rythmes scolaires.
Et c'est la fin aujourd'hui de 5 mois de travail collectif. 130 citoyens tirés au sort dévoilent aujourd'hui leur rapport et formulent des propositions. Eux prônent par exemple la semaine de 5 jours à l'école avec de profonds réaménagements des apprentissages sans révolutionner les vacances. L'un des membres du comité de gouvernance de la Convention citoyenne sur les temps de l'enfant, Jean-Carl Deschamps.
La Convention citoyenne ne portait pas spécifiquement sur le temps scolaire, mais sur les temps de vie de l'enfant, donc d'une manière globale. Et ce que constate la Convention, c'est une fragmentation à l'extrême, totalement inadaptée aux besoins physiques, psychiques des enfants.
Pour être très concret, si on prend l'exemple de l'école, ça veut dire qu'une journée de cours qui commence à 8 heures, dans certains cas, c'est trop tôt par exemple.
Oui, c'est effectivement l'une des propositions que font les citoyens, que de décaler le début de l'école à 9 heures. Ça fait consensus au sein de la Convention citoyenne.
La question aussi de l'organisation des semaines de cours est évoquée. On sait qu'il y a toujours la question des 4 jours, 4 jours et demi. Et bien là, la proposition, elle est tout autre.
Elle est tout autre. Elle est sur 5 jours, du lundi au vendredi, avec plutôt une orientation vers des cours le matin d'apprentissage théorique. Et puis l'après-midi, plutôt sur des apprentissages de savoir-faire, de savoir-être. Et puis toutes les activités sportives et culturelles qui sont extrêmement importantes et qui ont d'ailleurs un rapport.
Et Jean-Carl, c'était Jean-Carl Deschamps, participant de la Convention citoyenne sur les temps de l'enfant, invité de France Info ce matin.
Et dans 6 minutes, l'avis des parents d'élèves face à cette convention. Grégoire Ancel, le président de la FCPE, la Fédération des parents d'élèves, est notre invité.
Et un des 100 détenus considérés comme l'un des plus dangereux de France obtient une permission de sortie. Il s'agit d'une permission de sortie employeur. Pour lundi, ce détenu de 52 ans a été transféré cet été dans la première prison de haute sécurité à Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais. Il a été condamné pour trafic de stupéfiants en bande organisée.
Direction le Brésil maintenant avec la fin de la convention sur le climat, la COP30.
Sans accord satisfaisant pour l'Union européenne, la sortie des énergies fossiles ne figure pas dans le texte final. Reste que cette conférence climat a eu le mérite de remettre cette question à l'ordre du jour. Les énergies fossiles n'étaient pas à l'agenda officiel, rappelle Gaïa Fèvre de l'ONG Réseau Action Climat qui a suivi cette COP30.
Le président de la COP30 a pris un engagement, il traiterait du sujet, il le remettrait sur la table pour la prochaine COP. Il y a également la Colombie qui a lancé une initiative avec un événement qui se tiendra en avril pour discuter avec les pays les plus ambitieux de la sortie juste et ordonnée et financée des énergies fossiles. C'est impossible de demander à tous les pays d'arrêter, que ce soit de produire ou de consommer des énergies fossiles. Mais par contre, on doit s'engager à concrétiser la mise en œuvre de la sortie des énergies fossiles. Il nous faut un plan concret et il faut s'attaquer aux freins.
Gaïa Fèvre de l'ONG Réseau Action Climat qui a suivi cette COP30. Et dans cet accord final, les pays en développement obtiennent le triplement de l'aide à l'adaptation à l'horizon 2030, c'est-à-dire des financements pour faire face aux dégâts causés par le dérèglement climatique.
Et si un hôtel particulier se transformait en logements sociaux, place des Vosges à Paris.
La mairie de Paris vient de l'annoncer, réhabiliter cet hôtel en logements sociaux place des Vosges, où le prix au mètre carré atteint les 35 000 euros, l'un des quartiers les plus chers de la capitale, Laurent Kramer.
Impossible pour un ménage modeste de se loger ici.
Je ne sais pas comment ils vont faire pour vivre. Hein. Bon, qu'on leur fasse cadeau des logements, mais il faut manger.
À 35 000 euros le mètre carré, les commerces de proximité ont disparu au début des années 2000, tout comme les familles modestes. Charlie habite le quartier depuis 50 ans.
Parce que moi, j'étais là en 76. En 76, vous prenez la rue des Francs-Bourgeois, c'était que des marchands de tissus. C'était des petits artisans, des petits créateurs de mode, des trucs comme ça. C'était sympa, c'était gentil. Mais les loyers sont tellement chers.
Que la mairie de Paris souhaite créer ses 17 logements sociaux dans un ancien hôtel particulier de 1200 m². Yann Brossat est le coprésident du groupe communiste au Conseil de Paris et candidat aux prochaines municipales.
On se retrouve avec des quartiers très uniformes et pire que ça, des quartiers parfois inhabités du fait du développement des résidences secondaires avec des logements qui deviennent des pieds-à-terre. L'idée, c'est que dans ces logements puissent vivre des éboueurs, des auxiliaires de puériculture. Et je vois pas au nom de quoi on considérait que des personnes qui travaillent à Paris n'auraient pas le droit d'y habiter, seraient condamnées à vivre à une heure de leur lieu de travail.
Réhabiliter cet hôtel particulier coûtera plus de 7 millions d'euros, dont 2 financés par la ville. Projet démagogique s'agace l'opposition de droite à la mairie de Paris.
Signé Laurent Kramer pour France Info, place des Vosges. Une nouvelle solution de don dématérialisé aux sans-abri vient d'être lancée ce week-end à Lille, avant un déploiement ailleurs en France. Des cartes distribuées par une association à des SDF. Sur chaque carte figure un QR code que l'on peut scanner avec son smartphone et ainsi faire un don. La neige fond sur les voitures. Il n'y a plus de département en vigilance orange neige verglas en France en ce dimanche de novembre. Le Puy-de-Dôme et le Cantal ne sont plus concerné. Et le PSG reprend la tête du classement de la Ligue 1 de football devant l'OM et Lens, avec cette victoire hier soir 3-0 contre le Havre au Parc des Princes, et avant sa rencontre mercredi prochain en Ligue des Champions avec les Anglais de Tottenham.
Merci beaucoup Sarah Saraders sur France Info.
Les éditions Radio France présentent
France-Algérie, anatomie d'une déchirure.
Un livre de Thomas Negaroff et Benjamin Stora.
Hérité d'une longue colonisation et d'une guerre d'indépendance sanglante, l'histoire commune de ces deux pays reste à vif. Après la libération de Boualem Sansal, la réconciliation est-elle possible?
Un ouvrage clair, enrichi de cartes.
France-Algérie, anatomie d'une déchirure.
Un livre France Inter.
À suivre sur France Info, une semaine de 5 jours à l'école, des cours qui démarrent à 9h au collège. On vous détaille les recommandations de la Convention citoyenne sur les temps de l'enfant. Et puis elle scrute ce qu'il se dit sur les réseaux sociaux, l'œil de Julie Vialon avant midi et demi. De quoi allons-nous parler, Julie?
On va parler des films un peu trop longs au cinéma.
Et bien merci pour cette bande-annonce efficace. À tout à l'heure.
France Info, 10h-14h, Benjamin Fontaine.
Après 5 mois de travail, d'échanges, de discussions, les 130 citoyens de la Convention sur les temps de l'enfant ont mis un point final à leur rapport. Ils se réunissent à midi pour le voter avant de le remettre au président et au Premier ministre. Bonjour Grégoire Ancel.
Bonjour.
Vous présidez la FCPE, la Fédération des parents d'élèves. On va reprendre point par point ce rapport. Vous allez nous donner votre avis. Noémie Bonin, vous l'avez étudié. Quelles sont les principales propositions ?
Eh bien, ces citoyens font déjà le constat qu'aujourd'hui, l'organisation des temps des enfants repose surtout sur les contraintes des adultes, de leur emploi essentiellement ou des transports, et ne prennent que partiellement en compte leurs besoins physiologiques. Des experts estiment que 20 à 30% des jeunes souffrent d'un manque chronique de sommeil. Alors, les participants à cette convention proposent donc de réorganiser la journée avec un début de cours retardé à partir de 9h seulement au collège et au lycée. Ça réduirait la fatigue des ados et favoriserait les apprentissages. Des chercheurs ont montré que l'attention et la concentration sont plus élevées à partir de 9h30. Ils souhaitent aussi placer les enseignements théoriques le matin pour consacrer l'après-midi à des activités pratiques. On pense au sport, aux arts, mais plus original, les citoyens proposent des ateliers de la vie courante, bricolage, cuisine, couture, ménage, plomberie ou encore gestion financière et même préparation aux impôts. L'idée est de favoriser l'émancipation et de réduire les inégalités filles-garçons en enseignant à toutes et tous ces mêmes activités.
La question sensible des devoirs est aussi abordée.
Oui, il faudrait pouvoir les faire beaucoup plus à l'école, peut-on lire dans ce rapport, pour ne plus avoir cette charge considérée comme lourde à la maison, source de fatigue, de tension parfois et d'inégalité. Pour alléger les journées scolaires, les citoyens imaginent en contrepartie une semaine d'école à 5 jours, du lundi au vendredi, alors qu'aujourd'hui les enfants n'ont pas classe le mercredi dans 90% des communes.
Et Grégoire Ancel, cette semaine de 5 jours au lieu de 4, il faut y passer ?
Écoutez, ça fait très longtemps qu'on en parle, qu'on y va, qu'on en revient, mais très objectivement, c'est celle qui correspond le mieux au rythme de l'enfant. C'était prouvé par les chronobiologistes et aujourd'hui, on a contre-temps dans 90% des communes, comme ça vient d'être dit.
On parle de début des cours à 9h au collège, au lycée, vous y êtes favorable à ça aussi en termes d'organisation pour les parents ?
Tout à fait, ça peut effectivement amener à... Si on se place vraiment du point de vue de l'enfant et de son intérêt pour l'accès aux apprentissages, la réduction des inégalités et la capacité à être attentif, concentré et participatif, c'est effectivement un horaire qui correspond le mieux, là encore, aux intérêts de l'enfant et donc à condition de s'organiser en termes de transport. Ça va demander un certain mouvement de la société, mais c'est tout à fait souhaitable et envisageable, effectivement.
Donc vous faites le même constat que cette convention qui dit que les rythmes scolaires sont construits en fonction des contraintes des parents, mais pas en faveur des enfants, et il faut que ça change.
Tout à fait. Si on veut vraiment que l'école soit facteur d'égalité, permette aux enfants d'apprendre dans les meilleures conditions possibles, il faut qu'on ait collectivement le souci de réorganiser les choses. Ça va être pour nous un des enjeux forts des élections municipales, mais aussi des questions à centrer dans la campagne des présidentielles à venir, parce qu'aujourd'hui, le compte n'y est pas et on voit bien qu'on a une école qui est totalement décalée par rapport aux besoins des enfants. Et donc, c'est totalement préjudiciable à leur développement et à leurs apprentissages.
Une fin de journée vers 15h30, 16h30, ça risque quand même de poser quelques soucis à certains parents ?
Alors, lorsqu'on a échangé, parce qu'on a eu l'occasion, et je tiens d'ailleurs à souligner la qualité de leurs travaux et l'exigence qu'ils ont eue dans l'écoute, dans l'accueil des experts pour vraiment se cultiver sur ces enjeux-là, si l'école s'arrête à 15h30, et il est tout à fait possible derrière que les collectivités proposent des activités. Il ne s'agit pas de libérer, et ça, ça a été un élément qui leur a été dit, attention à l'impact sur le travail des femmes. Parce qu'on sait très bien que si on arrête les cours à 15h30 sèchement, avec rien derrière, ce sont beaucoup de familles qui vont être perturbées, la vie des entreprises, et on sait très bien que c'est les femmes, notamment les plus précaires, qui vont devoir prendre du temps partiel pour faire face à ce genre de situation. Et donc, ce qui avait été évoqué, c'est que derrière, le milieu associatif, qui est très fragilisé en ce moment, je tiens à le rappeler, puisse prendre le relais avec des activités, comme on a pu le vivre il y a certaines années. Mais ça demande un travail local au plus près, des concertations, des échanges avec les enseignants, avec les collectivités locales, les communes, qu'on puisse travailler vraiment un projet centré autour de l'enfant. Et ce qui se joue là, derrière ces travaux, c'est la question de la place de l'enfant dans la société, oui, de la place qu'on lui accorde.
Mais Grégoire Ancel, vous parlez de la situation des femmes qui seront peut-être obligées de prendre le relais. On sait aussi que les communes, en 2017, elles ont vite reculé sur la semaine de 5 jours pour repasser à 4. Ou 4 jours et demi.
Tout à fait, peut-être parce qu'on n'avait pas pris le temps du de la discussion, du travail, du consensus et de la préparation. On ne peut pas dire que les enfants sont trop longtemps sur les réseaux sociaux et que c'est préjudiciable, là encore, à leur développement, envisager une interdiction de plus de 15 ans et ne pas leur proposer un temps libre éducatif de qualité. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on regarde, ce qu'on observe, c'est un recul dramatique de la prise en compte des loisirs et du temps libre des enfants dans les communes qui ont reculé par rapport à ce qu'on appelait les projets éducatifs territoriaux qui étaient pleins de sens et qui permettaient une belle dynamique. Et aujourd'hui, faute de moyens, faute de temps, faute de concertation, il y a eu du recul. Et ça, faut pas oublier que l'enfant, c'est le cœur de la société et c'est les citoyens de demain. Alors, toutes les questions aujourd'hui posées sont pertinentes.
Alors, venons-en aux vacances, Grégoire Ancel. Sujet ô combien sensible, Emmanuel Macron voudrait les réduire. Que propose la Convention, Noémie ?
Eh bien, de les garder telles quelles, ou presque. L'idée serait de réduire les zones de vacances de 3 actuellement à 2. Ça permettrait d'avoir des périodes de cours plus équilibrées pour tous et plus respectueuses des rythmes chronobiologiques. Aujourd'hui, si vous êtes en zone A, B ou C, le nombre de semaines d'école est différent entre les petites vacances. Avoir seulement 2 zones permettrait aussi à toutes les régions d'avoir au moins une semaine en commun. Le rapport ne préconise donc pas de réduire les vacances scolaires, même si certains citoyens défendaient cette orientation. Le sujet n'a pas fait consensus.
Grégoire Ancel, président de la FCPE. Pas de réduction des vacances, mais un passage à 2 zones. Vous dites oui, là aussi ?
Tout à fait, ça rejoint les travaux qui avaient été livrés par le Conseil supérieur de l'éducation et d'ailleurs qui avaient été présidés par l'FCPE, qui arrivaient aux mêmes conclusions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des zones déséquilibrées et on a notamment, au moment du printemps, la dernière des zones qui oblige les enfants à avoir jusqu'à 11 semaines de cours consécutives. Et on sait parfaitement que dans ces conditions-là, là encore, les enfants ne peuvent pas apprendre. Le climat scolaire se détériore dans les établissements, il y a des tensions, les enseignants sont également épuisés. Et donc, avec cette alternance qui colle parfaitement au rythme de l'enfant, on retrouve cette capacité d'avoir une alternance 7-2, 7 semaines de cours, 2 semaines de vacances, qui leur convient là encore parfaitement. Et c'est tout à fait possible. Je rappellerai qu'aux vacances d'automne et de fin d'année, il n'y a qu'une zone et ça fonctionne très bien.
Avec le risque de voir le secteur du tourisme s'y opposer, il faut qu'il s'adapte ?
Alors, je rappellerai que pendant la commission spécialisée du Conseil supérieur de l'éducation, ils étaient d'accord, puisqu'ils ont été auditionnés, et qu'il y a eu un large consensus sur ce sujet. Si aujourd'hui ils reculent, nous serions surpris, mais n'oublions pas nous aussi qu'ils ont pris conscience de l'impact du réchauffement climatique, notamment sur les stations de sports d'hiver.
Ouais.
Et puis, je rappellerai qu'aux vacances de février, 2/3 des familles ne partent pas au ski, donc on ne peut pas caler. La question du calendrier scolaire sur 1/3 des familles qui partiraient et uniquement sur les questions liées à l'enneigement des stations. Ce n'est pas raisonnable.
Pour terminer, il reste un point, Noémie Bonin. La Convention précise aussi les conditions nécessaires à la réussite de ces changements.
Oui, il faut, selon eux, réduire les effectifs dans les classes. D'ailleurs, au passage, ils dénoncent les suppressions de postes d'enseignants envisagées dans le budget 2026. Mais pour que les propositions portent leurs fruits, il faudrait aussi, disent ces citoyens, repenser et alléger les programmes scolaires, adapter les bâtiments des écoles et valoriser les métiers de l'éducation.
Alors, on l'a dit, Grégoire Ancel, toutes ces propositions posent des questions de financement, de réorganisation. La Convention va procéder au vote du texte ce midi. Ensuite, le gouvernement, le président décideront ou non de se saisir de certaines mesures. Vous les incitez à le faire aujourd'hui ?
Vivant. Pour certaines mesures, certaines nous les portons depuis longtemps et comme des tas d'autres acteurs, dans l'intérêt de l'enfant. Et donc, nous allons prendre le relais. Car aujourd'hui, les conventionnels, ces citoyens, ont posé sur la table des sujets extrêmement importants qui font écho et on constate qu'après 5 mois de travail, ils arrivent aux mêmes conclusions qu'une partie des acteurs de l'éducation. Et aujourd'hui, nous allons prendre leur relais et porter nombre de ces demandes, nombre de ces propositions, parce qu'il est temps aujourd'hui qu'on se réorganise autour de l'enfant à l'échelle communale, départementale, régionale et nationale.
Vous y croyez ? Vous croyez qu'Emmanuel Macron est prêt à nouveau à tout chambouler ?
Écoutez, la Convention citoyenne est un exercice démocratique qu'il a placé au cœur de son mandat. Eh bien, nous disons chiche, dont acte, nous porterons ces mesures, nous les relayerons, nous engagerons le dialogue partout où c'est possible dans les territoires, parce qu'il ne faut pas faire peur avec la fin des cours, par exemple, à 15h30. Il faut imaginer tout le relais et tout le village qui se met en place autour de la question de l'enfance. C'est ça l'enjeu.
Merci beaucoup à vous, Grégoire Ancel, d'avoir été avec nous, président de la FCPE, pour réagir aux conclusions de la Convention sur les temps de l'enfant, convention qui doit donc voter ce midi ce rapport dont on vient de parler. À suivre, la possible interdiction de vendre un bois rare venu du Brésil menace la fabrication des archers pour violon. On va tout vous expliquer.
Votre attention, s'il vous plaît. en raison des intempéries.
Salut, je suis Graffy, j'ai 22 ans. Je voulais vous parler de ma campagne pour SOS Village d'Enfants.
Mais rendez-moi ce micro!
Tu as des idées, tu veux les faire entendre? Dévoile ta créativité en participant au Mademoiselle Peach Awards et imagine la nouvelle campagne de SOS Village d'Enfants. Si tu gagnes, tu verras ta campagne partout. Brief et inscription gratuites jusqu'au 2 mars sur mademoiselle-peach-awards.com.
Concours de pub ouvert aux freelances et étudiants, organisé par Mademoiselle Peach avec le soutien de Radio France Publicité.
France Info. 10h-14h.
Miami Divin, le fil info avec vous, Sarah Ders, et à la une, l'Ukraine et la course contre la montre des Européens.
Pour tenter de réécrire le plan de paix américain jugé favorable à la Russie, Américains, Ukrainiens et représentants de l'Union Européenne se réunissent aujourd'hui en terrain neutre à Genève. Ils vont discuter du document en 28 points élaboré par les États-Unis. Donald Trump se dit finalement ouvert aux négociations. Plus de 80 députés demandent l'interdiction de Chine en France, accusant la plateforme chinoise de nuire à la santé publique, à l'environnement ou encore à l'emploi. Les élus dénoncent une concurrence déloyale et des produits toxiques, alors que l'enseigne est convoquée mercredi devant la justice française. L'écrivain Boualem Sansal s'exprime pour la première fois ce soir au journal de 20h de France 2 depuis sa libération, graciée par l'Algérie il y a plus de 10 jours. L'auteur franco-algérien de 81 ans, détenu près d'un an en prison en Algérie. Fin de la tournée d'automne et les Bleus du rugby terminent l'année sur une victoire à domicile hier soir face à l'Australie, 48-33.
France Info.
C'est l'heure du choix de France Info. Connaissez-vous le Pernambouc ? Non, c'est un arbre rare du nord du Brésil. Il sert aujourd'hui à fabriquer les archers pour les violons alto notamment. Sauf que le Brésil souhaite aujourd'hui interdire son exploitation, sa vente. Le sujet sera débattu cette semaine à la CITES, la Convention sur le commerce des espèces en danger. Augustin Ourlier, aujourd'hui, tout un secteur est menacé par une éventuelle interdiction.
Dans cette interprétation du poème « Amitié » composé par Eugène Isaïe, Émilie Belot, violoniste à l'Opéra de Paris, utilise un archer en bois de Pernambouc, comme tous les musiciens professionnels de violon, alto, violoncelle et contrebasse.
Le musicien va très tôt chercher à faire l'acquisition d'un archer en Pernambouc. Ça va parfois lui prendre des mois, voire des années, pour trouver l'archer qui correspondra à sa technique, à sa personnalité musicale. Moi, je joue un archer que j'ai depuis mes 15 ans, que je continuerai à jouer aussi longtemps que je le pourrai, parce que j'ai pas trouvé l'équivalent aujourd'hui en termes de qualité.
Si le Pernambouc est interdit au commerce, chaque passage de frontière avec un archer nécessitera d'avoir une autorisation donnée par la CITES, la Convention internationale sur le commerce des espèces menacées d'extinction, avec des délais qui peuvent dépasser les 6 mois.
Certains aéroports ne sont pas du tout habilités à traiter ces questions administratives, donc on pourrait se retrouver avec des archers consignés, confisqués. Je pense que ça signerait tout simplement l'arrêt des tournées.
Certaines directions d'orchestre commencent déjà à suggérer aux musiciens de passer aux archers en carbone fabriqués en Chine. Une hérésie pour Émilie Belot et une grosse perte potentielle pour les artisans archetiers. Arthur Dubroca tient un atelier à Paris depuis plus de 20 ans. Avec la nouvelle protection du Pernambouc, il aurait besoin d'un agrément pour la moindre réparation, fabrication, achat ou vente.
On comprend vite que c'est une entrave au commerce. On ne va pas passer l'année sur des démarches administratives pour un travail qui pourrait prendre quelques heures sur l'établi.
Arthur Dubroca a peur de perdre des clients, notamment les artistes étrangers qui réparent leur archer entre deux concerts à Paris.
Nous, on estime à environ 30% de notre activité avec des clients étrangers. Ce qui veut dire que si jamais on perd cette clientèle, nous on est obligé de fermer l'atelier.
L'artisan dénonce une mesure de protection disproportionnée. Selon ses estimations, la fabrication d'archers pour toute l'Europe nécessite l'abattage d'une quinzaine d'arbres par an.
Et à l'inverse, Augustin, pour Maud Lelièvre, la présidente de l'UICN France, l'Union internationale pour la conservation de la nature, interdire la commercialisation du Pernambouc n'a rien de disproportionné vu la menace qui pèse sur l'espèce.
Le Pernambouc, c'est plus de 80% de l'espèce qui a disparu en trois générations, de façon extrêmement rapide. Donc moi, je peux comprendre le point de vue des acteurs économiques qui craignent pour leur secteur économique. Le problème, c'est qu'on a besoin d'avoir des règles strictes. Sur cette espèce comme sur d'autres, c'est un ensemble de mesures qui est nécessaire. Mais je pense qu'aujourd'hui, si on veut protéger cette espèce, il faut une application rigoureuse et des incitations à utiliser du bois cultivé et pas des espèces sauvages.
Et si on regarde cette ITES dans son ensemble, quels sont les gros enjeux de cette édition 2025 ?
Alors, on va avoir des débats espèce par espèce. Il y en a peut-être une qui va être intéressante à suivre, qui nous concerne peut-être plus sur le plan français. C'est par exemple le surclassement du requin océanique. On sait que ce sont des espèces qui sont très menacées d'extinction, 70% de l'espèce, avec un déclin qui est notamment dû au commerce illégal des nageoires. S'il n'y a pas des mesures qui sont prises par le commerce, on ne pourra pas avancer sur la protection des requins. Les requins et les raies, ils souffrent comme d'autres espèces de ne pas avoir une image très sympathique, mais c'est une espèce absolument essentielle, donc à suivre.
Vous représentez une organisation de protection de la nature. Est-ce que cette CITES 2025 vous donne de l'espoir ?
La CITES, c'est toujours utile, c'est une COP technique, donc ce n'est pas toujours facile d'arriver à suivre, mais on aborde cette CITES de façon extrêmement positive, notamment sur un point qui concerne la France, qui est la neutralisation des marchés de produits issus du braconnage, comme l'ivoire, les écailles, qui restent toujours des forts marchés de braconnage. Il y a un appel à la fermeture totale des marchés nationaux illégaux. On est concerné en France, on est concerné en Europe. Donc on aborde de façon positive cette CITES.
Maude Lelièvre, la présidente de l'UICN France, l'Union internationale de la conservation de la nature, dans le choix de France Info, signé ce matin Augustin Roulier. Voyons maintenant de quoi on parle sur les réseaux sociaux avec vous, Julie Vialon. Bonjour Julie.
Bonjour.
Des commentaires cette semaine sur la durée du futur Avatar. Le troisième épisode sort le 17 décembre, dans moins d'un mois maintenant. Et on sait maintenant qu'il va durer 3h15, alors que c'est exactement la même histoire que les autres. Non, ça c'est moi qui l'ajoute. Ce qu'on dit sur les réseaux, c'est que c'est beaucoup trop long et c'est un peu le sentiment général au cinéma aujourd'hui.
The Batman, 2h56. Babylon, 3h09. Boys Afraid, 2h59. Une bataille après l'autre, 2h42.
Ça fait beaucoup là, non ?
Et la liste est encore longue. Ces films sont sortis ces dernières années. Il faut avoir la vessie bien accrochée pour tenir toute la séance sans faire une pause pipi. Et certains internautes s'en plaignent sur TikTok.
Mais c'est quoi ce bordel ? 3h15. 3h15 pour Avatar 3. Ça vient de tomber. C'est Monsieur James Cameron qui l'a annoncé. Mais qu'est-ce qu'ils vont raconter en 3h15 ?
Nous sommes nombreux à avoir l'impression que les films sont de plus en plus longs, mais c'est peut-être bien une hallucination collective. En fait, la durée des longs-métrages n'a pas vraiment bougé depuis les années 1920, 1h50 en moyenne d'après le journal Le Monde. Les films longs, voire très longs, existent depuis des dizaines d'années. Laurence d'Arabie, Autant en emporte le vent, Ben-Hur, Titanic, tous durent plus de 3 heures.
Pourquoi on a l'impression que c'est si long alors ?
Déjà, les blockbusters se sont répandus. Ils sont devenus un genre à part entière au cinéma. Les Marvel, la saga Harry Potter, des films souvent très longs qui marchent très bien. Et d'après Mélanie Toubeau de la chaîne YouTube La Manie du Cinéma, ils sont plus projetés et restent plus longtemps en salle que les autres. Donc forcément, ça nous donne l'impression de voir plus souvent des films longs.
Mais j'imagine aussi que le streaming joue un grand rôle dans cette hallucination collective.
Et oui, avec un abonnement mensuel, aujourd'hui, on a accès à un nombre de films incalculable. Quand on regarde un film à la maison, on peut facilement mettre pause pour aller chercher des pop-corns ou jeter un œil à nos téléphones. Mmh. On regarde des vidéos sur les réseaux, parfois même en accéléré. Alors regarder un film pendant 3 heures sans rien faire en même temps, c'est compliqué. On n'a plus l'habitude, le temps nous paraît long. Selon Mélanie Toubeau, c'est peut-être même le cinéma qui devrait s'adapter à ses spectateurs en réhabilitant les entr'actes, par exemple, pourquoi pas. En fait, les films ne sont pas plus longs qu'avant, c'est nous qui sommes moins patients.
Il y avait d'ailleurs un entr'acte pour Le Brutaliste en début d'année qui faisait 3h30, je crois. Merci beaucoup Julie. Julie Vialon, L'œil de Julie, tous les week-ends sur France Info, à suivre la météo et toute l'info.
Ces destins qui font l'info, une série à découvrir chaque dimanche sur France Info.
Ils ont marqué l'actualité ces derniers mois. France Info explore le parcours des personnalités qui influencent et modèlent le monde.
Cette semaine,
Giorgia Meloni.
Je suis et je serai toujours fière d'être une personne du peuple.
Ces destins qui font l'info, le dimanche à 8h50 et 12h50 sur France Info. France Info Météo, avec le CIC, entreprise à mission. S'engager à ne pas commercialiser les données de ses clients, c'est ça construire pour que le monde bouge.
Un dimanche sous le parapluie, Patricia Charbonnier.
Changement de temps pour aujourd'hui avec le retour de la pluie sur une bonne partie du pays et cette dégradation pluvieuse s'accompagne d'un très net redoux sur une large moitié ouest. Le froid résiste encore un petit peu pour cet après-midi sur le grand est du pays. On va retrouver cette zone de pluie entre les frontières du nord, la Bourgogne, la Franche-Comté, le centre-Val de Loire jusqu'au sud-ouest avec avec des pluies localement soutenues qui s'accompagnent de bonnes rafales de vent, en particulier sur l'arc atlantique. Le temps reste sec, mais sous un ciel couvert près des frontières de l'Est, avec quelques averses de neige sur le nord des Alpes et des averses de pluie sur la Corse. Et sur le nord-ouest du pays, nous aurons un ciel très changeant, avec alternance de timides éclaircies et d'averses, avec des températures donc très contrastées. L'air froid résiste sur l'est du pays, avec seulement 3 degrés cet après-midi à Strasbourg, 4 à Dijon, 6 degrés à Lyon, 7 à Lille. Mais le redoux se confirme partout ailleurs, avec 9 degrés cet après-midi à Paris, 11 à Marseille et 17 à Biarritz.
Merci Patricia, vous écoutez France Info. On vous en remercie, bonne journée, il est midi et demi. L'info avec Philippine Thibaudeau.
Un balai de voitures aux plaques diplomatiques à Genève. C'est en Suisse que se retrouvent responsables américains, ukrainiens et européens. Ultime discussion puisque Donald Trump a lancé un compte à rebours de 4 jours au bout duquel Volodymyr Zelensky devra dire s'il accepte oui ou non l'accord de paix qu'il lui propose. En l'état, le plan américain comporte des défauts majeurs, a notamment réagi le premier ministre norvégien qui a multiplié les consultations avec d'autres à ce propos en marge du sommet du G20 en Afrique du Sud. En France, quelle forme aura le futur service militaire? Emmanuel Macron avait évoqué son retour en juillet. La ministre déléguée auprès de la ministre des Armées confirme que des travaux sont en cours sur une nouvelle version. Le volontariat est le mot-clé, a dit ce matin sur France Info Alice Ruffaut. Plus de 80 députés qui disent non à Chine. Dans une tribune, ils réclament l'interdiction de la marque de fast fashion sur le territoire français. Avec l'ouverture il y a 2 semaines du magasin physique au BHV de Paris, ce n'est pas, je cite, la mode qui se démocratise, c'est Chine qui se dédiabolise, dit le texte des parlementaires. Un accident de la route dramatique dans le Gard. 2 adolescents âgés de 15 ans sont morts. Ces 2 piétons ont été percutés par une voiture sur la commune de Saint-Bray. Le père de l'une des victimes qui s'est rapidement rendu sur place a été lui-même percuté par un autre véhicule. Son pronostic vital n'est pas engagé. Une enquête est ouverte. Un rassemblement ce matin devant le parc animalier Planète Sauvage en Loire-Atlantique. Des militants de l'association One Voice qui ont crié leur opposition au transfert de 11 dauphins vers le zoo de Beauval. Ils plaident plutôt pour qu'ils soient lâché dans un bras de la Méditerranée. Et puis on connaissait les tenues scintillantes d'Elvis Presley ou de Dalida cédées au prix fort. Et bien les cheveux des célébrités trouvent aussi preneur. Une petite mèche de Claude François a été vendue hier lors d'une vente aux enchères à Paris. 780 €. Même prix aussi pour quelque chose qui s'en approche. 2 peignes de Johnny Hallyday avec quelques poils encore accrochés. Et pour l'anecdote, ce sont 2 peignes que le chanteur avait jetées dans la foule lors d'un concert au Palais des Sports de Paris en 1976.
C'est vrai que ça faisait partie de ses habitudes de se coiffer une dernière fois et de lancer son peigne. Merci beaucoup Philippine Thibaudeau pour ce point coiffure. Midi et demi.
France Info Sport avec Omiris. Alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS à Grey Knapps.
7 essais et une victoire. Le 15 de France termine en beauté sa tournée d'automne avec un succès face à l'Australie, 48-33. Les joueurs comme les supporters sont soulagés, même si tout le monde attend encore mieux, Fanny Le Chevestrier.
Soulagement, il s'est entendu à coups de grosses sonos dès la fin de la rencontre, avec 80 000 spectateurs qui, malgré le froid et la neige, n'avaient pas envie de quitter leur équipe de France.
On est content que la France ait gagné.
C'est trop bien.
C'est magnifique.
Bien joué contre l'Australie.
T'as un joueur favori?
Oui, c'est Louis Bellebiarret.
Et oui, Louis Bellebiarret, nouveau chouchou des supporters, du haut de ses 22 ans et de ses désormais 20 essais en bleu, auteur d'un magnifique doublé hier soir.
C'est le match où on a pris le plus de plaisir. Ça fait du bien quand pas tout se passe bien, mais quand on gagne et qu'on prend du plaisir comme ça, on espère que c'est de bon augure pour la suite.
Avec, dans les points positifs de ce match, une jeunesse qui a montré du talent, Speedy LBB donc, mais aussi Nicolas Deporter ou encore Calvin Gourgue, 20 ans, première sélection et à l'origine d'un des 7 essais tricolores sur son petit nuage hier soir.
Franchement, je suis trop plein d'émotions. Jouer devant 80 000 personnes, je ne l'ai jamais fait et c'est vraiment impressionnant. Et surtout, chanter la Marseillaise devant 80 000 personnes, ça met les frissons.
Des frissons, on en a eu aussi, mais plutôt malheureusement de frayeur en regardant la défense du 15 de France. Une défense en souffrance qui n'a durant cette tournée d'automne jamais encaissé autant de points sous l'air Galtier. De l'aveu même du sélectionneur, les Bleus de 2025 sont d'ailleurs moins forts que par le passé.
On est moins en place, on est moins fort qu'il y a 4 ans. 4 ans, c'était une série de 14 victoires consécutives. On n'est pas au même niveau, mais je le dis avec sérénité.
Car malgré cela, écoutez Gaël Ficou, le joueur le plus capé de l'équipe, il n'y a pas d'inquiétude à avoir.
On a une équipe de France performante. Depuis
depuis 6 ans, 7 ans. Et du coup, on attend toujours plus et c'est normal. Il faut encore élever notre niveau de jeu, on en est conscient. C'est un match quand même où on met 50 points. S'il y a quelques années, on aurait dit qu'on mettait 50 points à l'Australie, on aurait signé direct. Donc, il faut savoir pas se contenter, mais être content de ce qu'on a fait.
Après tout, le contrat est rempli avec cette tournée. Les Bleus conservent leur rang parmi les 6 premières nations mondiales et seront bien tête de série lors du tirage au sort de la Coupe du Monde le 3 décembre prochain. Il leur restera ensuite 17 matchs pour s'améliorer, à commencer par le tournoi Destination dès février.
Et le tournoi Destination, jeudi 5 février, ça commencera avec France-Irlande. Merci Fanny. En Ligue 1 de foot, le PSG reprend la tête du championnat à 2 points de l'OM et de Lens. Victoire 3-0 des Parisiens face au Havre hier soir. Une 13e journée marquée par le retour de Paul Pogba après plus de 2 ans d'absence. Une série de coups durs, dont une suspension pour dopage. Mais son équipe, Monaco, elle, s'est inclinée hier soir 4-1 à Rennes. Ça n'a pas empêché Pogba de vivre son retour sur la pelouse avec une certaine intensité, Jean-Pierre Blimaud.
Il est 20h18, Paul Pogba part s'échauffer. À 20h40, il entre sur la pelouse. Le Roizen Park l'acclame comme rarement un joueur adverse ne l'a été. Preuve de l'immense popularité du champion du monde qui n'avait encore jamais joué en Ligue 1 française. À ce moment, Paul Pogba est pleinement conscient de l'importance de ce retour sur les terrains.
Ça m'a vraiment touché de voir ce public vraiment se lever, applaudir. J'imaginais pas en fait. Je voulais essayer d'apporter une bonne énergie et prendre du plaisir bien sûr parce que je suis soulagé d'avoir repris le football, ce que j'aime le plus au monde.
Dans les tribunes, même les supporters de Rennes sont émus, comme Alban, 25 ans. Il en avait 18 quand Pogba l'a fait rêver à la Coupe du Monde en Russie.
C'est quand même un joueur qui a ramené la Coupe du Monde pour la France, donc c'est plutôt sympa. À part avoir applaudi, on est content de le revoir.
Vous pensez qu'il peut revenir en équipe de France?
Si je rejoue rapidement tout un match entier, oui, ça peut le faire, mais il faut qu'il redonne de la consistance pour être pris.
Mais pour Paul Pogba, l'équipe de France et la Coupe du Monde 2026 sont encore très loin.
Si je ne suis pas en forme et je joue mal et je ne performe pas bien à Monaco, l'équipe de France, il faut oublier. Donc franchement, aujourd'hui, je pense qu'à Monaco.
En tout cas, l'entraîneur de Monaco, Sébastien Pocognoli, avait prévu de le faire entrer quel que soit le déroulement du match.
C'était prévu parce qu'il s'est bien entraîné et que peu importe les circonstances, il est bien rentré. On était à 10 contre 11, ce n'était pas facile. Mais il a bien fait, donc on va retenir ça.
Dans les coulisses, Paul Pogba prend le temps devant les micros et parle posément, comme si les épreuves l'avaient rendu plus fort.
Malgré tout ce qui s'est passé, toutes les histoires en dehors du football, c'est moi qui ai souffert le plus. T'as des moments où le diable, il parle, il essaye de parler dans ta tête pour dire c'est fini. Mais il y a un bon Dieu, moi je crois en moi, je crois aussi en mes qualités. Et comme je sais que j'avais rien fait, c'est pas de ma faute. Donc il y avait toujours espoir et j'ai toujours gardé espoir.
Avec le temps additionnel, Paul Pogba a joué une dizaine de minutes pour son retour. Elles compteront énormément dans sa reconstruction.
Jean-Pierre Blimaud à Rennes pour France Info. À suivre aujourd'hui Auxerre qui reçoit Lyon à 15h, Toulouse-Angers à 17h15 et l'affiche du soir Lille face au Paris FC, c'est à 20h45. Elle prend la parole pour la première fois depuis la mort de son fils en août 2024. La mère de Tahar Taibi, proche du rappeur SCH, est au micro de France Info dans des minutes. Elle était au rassemblement organisé à Marseille hier contre le narcotrafic. Et puis juste avant 13h, votre billet science, Bill François.
On va parler d'une des baleines les plus rares au monde, observée pour la première fois.
À tout à l'heure, Bill.
France Info, 10h-14h, Benjamin Fontaine.
Après 2 semaines chaotiques marquées par un incendie, des intrusions de manifestants, la COP30 sur le climat est terminée à Belém, au Brésil. 200 pays ont signé l'accord qu'on va détailler tout de suite. Bonjour François Jemaine.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes co-auteur du rapport du GIEC, chercheur spécialiste de la gouvernance du climat et enseignant à Sciences Po. Vous allez nous dire pourquoi, selon vous, cet accord n'est pas un bon accord. Mais d'abord, Sandy Dauphin, on précise que les pays en développement obtiennent un triplement des aides pour faire face aux dégâts causés par le dérèglement climatique.
Cette COP au cœur de l'Amazonie n'aura pas été un long fleuve tranquille, mais malgré l'absence des États-Unis, malgré les désaccords, le multilatéralisme a tenu bon, se félicite le président de la COP30, André Correa do Lago.
La circonstance géopolitique est tellement difficile que nous sommes vraiment heureux d'avoir uni tout le monde, 195 pays, et de montrer que le monde prend au sérieux le combat du réchauffement climatique et surtout le monde veut continuer à travailler ensemble.
Reste que pour l'Europe, la déclaration finale manque d'ambition. Jean-Luc Cruc est le ministre fédéral belge du climat.
On n'a réellement pas obtenu le niveau des ambitions qui étaient celles de l'Europe. Et je crois qu'il faut être correct à cet égard. On ne retrouve, à mon sens, pas suffisamment de références à la sortie du fossile. On ne parle pas de déforestation insuffisante alors qu'on est en Amazonie et qu'il devrait savoir ce que c'est.
Toute autre tonalité, l'Inde juge l'accord significatif. Quant à la Chine, son chef de délégation se dit heureux du résultat de cette COP. Pékin s'inquiète des taxes carbone aux frontières, notamment celles de l'Europe. L'accord prévoit justement d'instituer un dialogue sur le commerce mondial. C'est une première dans les négociations climatiques.
Sandy Dauphin, envoyé spécial de France Info à la COP 30 au Brésil. François Gemène, vous qualifiez le texte final de la COP 30, je vous cite, de naze, archi nul. C'est parce qu'il n'y a rien sur la sortie des énergies fossiles ?
C'est clair, c'est un résultat qui est vraiment, vraiment calamiteux et qui est en dessous de tout. Il n'y a rien sur les énergies fossiles à part une référence oblique au consensus des Émirats de la COP 28 il y a deux ans. Il n'y a pas grand-chose non plus sur la déforestation. Et donc, en réalité, on a vraiment un texte qui est une coquille vide, qui cherche simplement à sauver les meubles et à donner l'illusion que le multilatéralisme est encore vivant. Et on voit bien pourquoi les délégués, notamment les délégués européens, ont accepté ce texte, parce qu'ils ne pouvaient pas, dans le contexte actuel, prendre le risque d'un échec diplomatique cuisant qui aurait en quelque sorte donné raison à Donald Trump. Mais le résultat, le prix est très très lourd à payer. C'est un recul majeur par rapport aux avancées des années précédentes.
Alors justement, vous parlez des Européens, je vous propose d'écouter Monique Barbu, la ministre de la Transition écologique, qui dresse un bilan mitigé.
Le processus était peu transparent. Tout s'est fait dans des chambres fermées, avec peu de compréhension de ce qui se disait dans les différents groupes. Ce n'est pas une COP de la vérité, ce n'est pas une COP de la transparence. Le résultat n'est pas au niveau de nos attentes. Si ça avait été un vraiment mauvais accord, nous ne l'aurions pas signé. C'est un accord sans ambition, mais ce n'est pas un mauvais accord dans le sens où il y a des choses inadmissibles, si vous voulez, décrites dedans. Il ne casse rien, si vous voulez, des dynamiques précédentes. Pour nous, c'est effectivement tout ça pour ça.
Tout ça pour ça, dit la ministre Françoise Gemène. Est-ce qu'elle essaie un peu de sauver la face ?
Alors, quand vous entendez ce type de langage de la part de Monique Barbu ou de Jean-Luc Cruc qu'on a entendu auparavant, qui sont pourtant rompus à tenir des propos diplomatiques et policés, vous savez que le résultat est archi nul. En réalité, si vous lisez entre les lignes, et ce résultat est nul parce qu'il envoie un très mauvais signal aux acteurs économiques. Il faut bien se rendre compte que le résultat des COP, ce n'est pas tellement des engagements qui vont s'imposer aux États, c'est surtout des signaux qui sont envoyés au monde extérieur et notamment au monde économique. Et donc, quand on dit il y a deux ans qu'on va sortir des énergies fossiles, on envoie le signal aux investisseurs qu'il faut déplacer leurs investissements et investir dans les énergies bas carbone. Et là, si vous n'êtes même plus capable de reprendre ce terme d'énergie fossile dans le texte, eh bien, vous envoyez évidemment le signal qu'on peut encore continuer à investir pendant longtemps dans les énergies fossiles et que la fin des fossiles n'est pas pour demain.
Oui, que ça risque d'inciter les entreprises à poursuivre, à augmenter leurs investissements dans les énergies fossiles.
Mais bien entendu, ou même celles qui se disaient qu'ils allaient s'engager dans un processus de décarbonation parce que la législation allait arriver, parce que le monde était résolu à lutter contre le changement climatique, ben celles-là risquent d'attendre encore un peu en se disant qu'il n'y a pas urgence.
Mais pourquoi les Européens n'ont pas tapé plus fort du poing sur la table ?
Alors, ils l'ont fait à plusieurs reprises au cours des COP précédentes. Je me souviens de la COP 6 à 2000 à La Haye, où les Européens avaient carrément claqué la porte et les négociations ont été suspendues. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait ? Pour deux raisons. Un, parce qu'ils ne voulaient pas apparaître comme les méchants. Le problème, c'est que les pays émergents, s'ils veulent s'engager sur les énergies fossiles, demandent de l'argent en compensation des dégâts du changement climatique. Et les pays européens, aujourd'hui, n'ont pas cet argent à mettre sur la table. Donc, il faut mobiliser des capitaux privés. Mais pour le moment, les gouvernements n'ont pas cet argent. La deuxième raison, c'est qu'évidemment, ils ne voulaient pas donner raison à Donald Trump. Si la COP avait été un échec, eh ben Donald Trump aurait dit « Vous voyez, ces COP ne servent à rien. Je l'avais dit, ça ne sert à rien d'y participer. » Et donc, même si les États-Unis n'étaient pas là, leur ombre a clairement plané sur la conférence.
Vous parliez des signaux, il y a une reconnaissance implicite dans cette COP que l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré est hors d'atteinte. Ça signifie quoi pour la crédibilité de l'accord de Paris ?
Alors, au départ, on savait que cet objectif d'1,5 degré était en réalité inatteignable. C'était surtout un gage de bonne volonté qui avait été donné il y a 10 ans aux représentants des petits États insulaires, pour qui c'était évidemment quelque chose de très très important. Mais on savait que cet objectif était inatteignable. Aujourd'hui, cet objectif, c'est un marqueur d'ambition politique, de la même manière que vous diriez zéro mort sur les routes en matière de sécurité routière. c'est simplement un marqueur d'ambition. Mmh. On sait que l'objectif est inatteignable d'un point de vue scientifique, mais ça reste un marqueur d'ambition politique. On voit bien un peu le décalage ici entre la bulle des négociations et la réalité.
Malgré tout, François Jemène, on l'évoquait avec Sandy Dauphin, ce texte mentionne, parmi les points positifs, un triplement de l'aide à l'adaptation pour les pays justement qui doivent faire face au réchauffement climatique et qui n'ont pas les moyens de financer les dégâts. Ça, c'est un vrai progrès ou c'est un lot de consolation ?
C'est un peu un lot de consolation. Alors, je suis d'accord pour dire que c'est un des rares points positifs du texte, mais le problème, c'est que comme on ne met pas d'argent sur la table, on en est réduit à faire des promesses, des intentions de plus en plus ambitieuses. Je préférerais sincèrement qu'on dégage un peu d'argent maintenant plutôt que de promettre un triplement d'ici 2035 sans préciser clairement comment et où on va trouver cet argent.
Enfin, pour terminer, le Brésil avait annoncé une COP qui serait un pont entre les pays du Nord, les pays du Sud moins développés. Est-ce que ça a été le cas, selon vous ?
J'ai envie de dire pas vraiment. On sent bien que
il
n'y
a
le
rien
texte
de bon, en fait, François Jemène, avec vous.
Franchement, c'est compliqué de trouver des choses à sauver dans cet accord. Alors, on sent bien que le texte, effectivement, satisfait les pays émergents. Ça me rappelle un peu le texte de la COP 15 à Copenhague, qui, là aussi, avait été un texte dicté essentiellement par les pays émergents, et donc qui, évidemment, insatisfait les Européens. Et qui est un texte qui impose très, très peu de contraintes et qui impose des signaux très, très faibles.
Merci beaucoup, François Jemène, pour votre réaction ce midi sur France Info à la fin de la COP 30 climat au Brésil. Une mauvaise COP, on l'a compris pour vous, puisqu'elle n'a abouti à aucun engagement nouveau en matière de sortie des énergies fossiles, notamment. Ils ont tué mon fils et ils m'ont tué avec. Dans un instant, sur France Info, le témoignage d'une mère dont le fils, ami du rappeur SCH, a été victime des narcotrafiquants. Elle prend la parole pour la première fois.
France Info, 10h-14h.
Et à 1h moins le quart, le retour de l'info en une minute avec vous, Sarah Der. C'est une convention citoyenne propose une nouvelle organisation des journées à l'école.
Après 5 mois de travail collectif, les 130 citoyens tirés au sort dévoilent aujourd'hui leur rapport et plaident pour 5 jours d'école, des cours de 45 minutes ou encore 2 zones de vacances. Des négociations à Genève sur l'avenir de l'Ukraine après le plan de paix américain décrié par Kiev et les Européens. La délégation ukrainienne vient de rencontrer les représentants européens en Suisse. Réunion aujourd'hui en terrain neutre entre Américains, Ukrainiens, Allemands, Français ou encore des représentants de l'Union européenne. Un des 100 détenus considérés comme les plus dangereux de France obtient une permission de sortie de la première prison de haute sécurité à Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais. Il s'agit d'une permission de sortie employeur pour lundi. Ce détenu de 52 ans condamné pour trafic de stupéfiants. Un premier foyer de grippe aviaire en Haute-Vienne dans un élevage de volailles d'Arnac-la-Poste avec comme conséquence l'abattage de tous ces volailles. En tout, une vingtaine de foyers de grippe aviaire recensés en France ces dernières semaines.
France Info.
Plus de 6000 personnes rassemblées à Marseille hier contre la violence générée par le narcotrafic et parmi elles, une femme dont le fils unique a été assassiné en août 2024 à la Grande Motte dans l'Hérault. Tahar Taibi, commercial, était dans une voiture mais ses assassins visaient en réalité le rappeur SCH, menacé de mort par le grand banditisme marseillais. Zoubida Taibi, sa mère, témoigne au micro de Tristan Barrault.
C'est de mon devoir et de venir soutenir aussi les gens. Parce qu'ils ont tué mon fils l'année dernière. Moi, c'est la première fois que je parle de l'affaire de mon fils. J'essaye de penser mes plaies et rester tranquille dans mon coin. Je crois que je ne suis pas la seule depuis cette histoire. Voilà, c'était fils unique. Et ils n'ont pas tué que mon fils, ils m'ont même tué avec. Mon fils, il a été tué en 2024, le 26 août, exactement à la Grande Motte. Puisque SCH, il avait donné un concert là-bas. C'était un ami à SCH. Ils l'ont confondu, ils l'ont tué. Criblé de balles, et puis c'est terminé. Et je l'ai enterré, et la vie continue.
Qu'est-ce que vous vous dites quand vous voyez que ça arrive à nouveau dans un endroit où c'est jamais arrivé ?
C'est un truc, je sais pas moi, c'est un truc, c'est trop grand pour nous, c'est énorme pour nous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? C'est un truc politique, ça. Un jeune comme Ami ne pourra pas porter ce fardeau tout seul, c'est impossible. Nous, on est là, c'est vrai. Moi, j'ai été touchée dans ma chair. Et il y en a beaucoup aussi d'autres personnes ici à Marseille. Voilà, c'est tout. Et mon fils n'était absolument pas du tout ni dans le narco, ni dans la drogue, ni du tout, du tout, du tout. Il a fait des études, il était bien, il travaillait. C'est d'arriver comme ça et puis c'est tout. Voilà.
Un innocent.
Un innocent, complètement innocent, oui.
Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ?
Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ben, ça, c'est les politiques. Il y en a plein ici. Ben, eux, ils doivent prendre une décision de ce qu'il faut faire. Comment il faut nettoyer cette... Ils ont laissé gangréner la situation, la DZ, des aides. Moi, je suis algérienne d'origine. Franchement, c'est une honte, voilà, de prendre un Lego comme ça, des aides. Voilà. Et s'en servir, si c'était pour la bonne cause, ça va. Mais pour faire un truc de mafio et de tueur. À l'époque, c'était l'Italie, c'était les trucs, bien loin. Mais là, voilà.
Vous pensez que les politiques peuvent faire quelque chose et que
Oui, je pense, oui, avec la justice et tout ça. Moi, j'ai confiance en la justice française. Oui, ils peuvent faire des trucs, ils peuvent nettoyer déjà, aller canaliser, les mettre un peu dans les trucs de sécurité et tout ça. Et puis voilà, quoi. Et puis s'occuper un peu des jeunes gens qui sont un peu dans la dérive, là. Ce qu'il a raconté Amine, moi, je suis pour, voilà. Qu'ils essayent d'aider un peu les petits jeunes, là, et leur donner... Pas que Marseille. Marseille, je crois que... C'est une réputation de vieil truc, c'est la ville de French Connection, machin, tout ça, mafia, il s'est resté bien ancré. Et peut-être que certains, ils en profitent parce que justement, l'appellation de Marseille. Et c'est vrai, quand on voyage à l'étranger, les gens, ils nous regardent, ah, vous êtes de Marseille. Ça fait un peu peur, ça fait pas bien, ça fait malsain. Voilà. Alors que c'est une belle ville. Et ça touche maintenant toute la France, et bon, c'est international de toute façon.
Zoubida Taïbi au micro, France Info de Tristan Barrault, 1h10. Voilà 3 ans qu'elle applique une politique ultra-conservatrice à la tête de l'Italie avec sa fougue et ses accents populistes. Mais quelle est vraiment la patte, la formule de Giorgia Meloni? Réponse dans notre 4e épisode des Destins qui font l'info avec Agathe Mahué.
C'est une séquence purement Meloni. En mai 2024, la première ministre se rend près de Naples et rencontre le président démocrate de cette région, Campanie, qui l'avait insulté, traité de stronza, quelques mois plus tôt lors d'une conversation privée, mais divulguée. Voilà donc Giorgia Meloni qui s'approche de lui, Vincenzo De Luca.
Presidente De Luca.
Et droit dans les yeux.
La stronza della Meloni. Come sta?
C'est moi, cette connasse de Meloni. Comment allez-vous? Tout en lui serrant la main. De Luca ne réagit pas et lui souhaite simplement la bienvenue dans la région. Un point pour la présidente du Conseil italien qui revendique ce franc-parler, cette langue jamais dans la poche et cet accent romain. Parfois même ce dialecte de Rome dont elle use parce qu'il la rend authentique et sincère auprès de son électorat. Été 2022, juste avant d'arriver au pouvoir, elle perd un peu sa voix en meeting. Boit une gorgée d'eau et s'excuse. Je vous jure que j'essaie d'être plus calme. Mais bon, les gars, je suis de la Garbatella aussi. Que voulez-vous? Faut que ça sorte. C'est ça, la Garbatella, ce quartier très populaire que dévale sur sa Vespa Nanni Moretti dans son film Journal Intime, sur une musique de Leonard Cohen.
Il quartiere che mi piace più di tutti è la Garbatella.
Bon, Moretti et Meloni, c'est vrai, ne sont pas du même bord. Et ce quartier périphérique de Rome est surtout un bastion de la gauche où emménage Giorgia, toute petite, après le départ de son père et l'incendie qu'elle provoque en laissant brûler une bougie dans l'appartement cossu du centre-ville qu'il faut quitter.
Le mie radici popolari, no, m'hanno chiamato Pesciarola, Fruttivendola, Borgatara.
Cette jeunesse à la Garbatella lui permet de se revendiquer banlieusarde.
La cultura.
Des origines qu'elle ne manque jamais de rappeler.
Sono e sarò sempre fiera di essere una persona del popolo.
Je suis et je serai toujours fière d'être une personne du peuple. Je serai toujours simplement l'une des vôtres. Elle incite d'ailleurs ses électeurs à l'appeler simplement par son prénom.
Non Presidente, non Meloni, Giorgia.
Giorgia Meloni n'a que le bac, son seul diplôme. Elle raconte volontiers qu'elle connaît les petits boulots. Serveuse au Piper Club de Rome, célèbre scène de rock dans les années 70, devenue discothèque quand Meloni avait 20 ans. La présidente du Conseil italien, désormais à 48 ans, un débit mitraillette, tempérament déterminé. Elle l'a dit, il faut l'être pour réussir dans un monde d'hommes. 1m60, Giorgia Meloni n'est pas grande, mais on ne voit qu'elle dans les sommets internationaux. Ses grimaces, ses froncements de sourcils notamment font le tour du monde.
L'auteur Emmanuel Carrère, qui couvre le G7 à l'été 2025, dit d'elle qu'elle est la moins poker face de tous. Quand quelque chose l'amuse, elle pouffe de rire. Quand quelque chose l'ennuie, elle lève les yeux au ciel et soupire bruyamment. Et l'écrivain ajoute
« Je sais que Mélanie est considérée comme d'extrême droite et qu'il ne faut pas dire du bien d'elle. Disons seulement que cette petite femme blonde détonnait au G7 par une sorte de rudesse enjouée et un dress code sans concession à la grisaille. Au milieu des tailleurs stricts, sa robe bleu ciel, très légère, avait presque l'air d'une robe de plage. »
Dirait-on cela d'un homme ?
She's a beautiful young woman.
Ça ne vous dérange pas que je parle de vous comme d'une belle jeune femme, n'est-ce pas ? S'assure aussi Trump.
You don't mind being called beautiful, right ?
Parce que vous l'êtes.
Because you are.
Mélanie, surtout, est habile et fine politiquement. Toujours populaire en Italie après 3 ans à la tête de son gouvernement ultra-conservateur, presque un record de stabilité.
Il nostro governo entra nella lista dei primi 5 governi più duraturi della storia della Repubblica Italiana.
Son objectif, redonner à l'Italie toute sa place sur la carte du monde.
Giorgia Meloni, ces destins qui font l'info. Vous retrouvez les 5 épisodes de cette série signée Agathe Mahuet et Théo Gomard sur l'application Radio France, avec tous les autres portraits qu'on a pu vous proposer ces derniers mois, ces dernières semaines sur France Info. Ces destins qui font l'info.
Le billet science avec le groupe Vive, premier acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France. Groupe Vive, pour une santé accessible à tous.
On part pour une plongée maintenant avec vous, Bill François. Bonjour Bill.
Bonjour.
Plongée dans les profondeurs de l'océan pour découvrir une des plus rares baleines au monde. Si rare que personne ne l'avait encore jamais vue vivante. Elle a été observée ces derniers mois. À quoi ressemble-t-elle au juste ?
Elle appartient à la famille des baleines à bec. Ce sont des sortes de dauphins géants de couleur gris-marron avec des défenses qui dépassent de leur bouche un peu comme celles d'un sanglier. Mmh. Ça paraît très bizarre, vous n'en avez sans doute jamais vu.
Non.
Et pour cause, elles sont très difficiles à repérer. Déjà parce qu'elles n'émettent pas de souffle en surface et en plus parce que ces grands timides se cachent la plupart du temps à plus de 3500 mètres de profondeur où ils peuvent rester en apnée plus de 4 heures. Les meilleurs plongeurs de tous les mammifères marins. Il existe 24 espèces de baleines à bec, mais on ne sait presque rien sur aucune d'entre elles.
Et parmi ces 24, donc, il y en a qu'on n'a jamais vu.
Et c'était le cas de la baleine à bec à dents de ginkgo. Nommée ainsi car ses dents rappellent les feuilles du bel arbre ginkgo biloba, qui a le feuillage tout doré en ce moment à l'automne. Cette espèce ne nous était connue jusqu'à présent qu'à travers quelques ossements et cadavres de spécimens échoués. Mais c'était sans compter avec la persévérance d'une équipe de chercheurs de l'Oregon et du Mexique qui a passé 5 ans à la traquer sur toutes les mers du globe sans l'avoir jamais vue, juste en suivant la piste de sons susceptibles d'être ceux qu'elle émettait. Et la semaine dernière, la nouvelle est tombée. Ils l'ont enfin observée de leurs propres yeux au large du Mexique.
Mais comment sait-on que c'est elle si on ne l'a jamais vue ?
Avec une arbalète, les chercheurs ont prélevé un petit morceau de peau et de gras de l'animal et ont donc pu identifier son ADN. Ça a d'ailleurs été très difficile car un albatros a tenté de dévorer l'échantillon. C'était moins une.
Effectivement.
Mais maintenant, on sait donc non seulement à quoi ressemble cette baleine vivante, mais aussi à quoi ressemble son cri, puisqu'il a été enregistré au moment de l'observation. Et en analysant ses sons, on a pu retracer ensuite des parcours de ses congénères à travers le Pacifique. Cette découverte permettra sans doute de mieux protéger ces animaux très menacés par les explosions d'armes sous-marines qui les font s'échouer. Et surtout, elle nous prête à rêver à la part inexplorée de l'océan, dont nous ne connaissons à ce jour que moins de 10% des espèces vivantes. Mmh. La science souhaite donc à cette étrange baleine ginkgo de revenir nous voir un peu plus souvent et de nous présenter d'autres géants inconnus.
Mais oui, on sera ravis de les rencontrer. Vous reviendrez nous en parler. Merci Bill. Rendez-vous le week-end prochain pour un nouveau billet science. En attendant, on vous retrouve sur franceinfo.fr. À un mois de Noël, c'est déjà le début des fêtes des fins d'année. Au moins dans notre assiette, les foires grasses du marché de Brive-la-Gaillarde en Corrèze ont commencé hier à la halle Georges Brassens, première d'une série de 6 jusqu'en mars pour décoter canard, oie chapon et foie gras. L'occasion de faire ses achats à quelques semaines de Noël, même si certains, Selma Rich, n'attendront pas le 24 décembre pour se régaler.
Dominique range une conserve dans son panier.
Des rillettes de canard.
Elle compte bien les ouvrir avant Noël.
C'est pour amener
et partager avec de la famille. Voilà, on va attendre un petit peu pour les achats de Noël.
L'occasion de revenir aux foires grasses d'ici là.
Je fais confiance aux Corréziens pour tout ce qui est nourriture, alimentation.
C'est vrai qu'ici, c'est pas le choix qui manque.
Canard, foie gras, magret, cuisse, carcasse.
Que des bonnes choses.
Exactement.
Gérard Mercier est producteur en Dordogne.
Bon, les gens sont venus très tôt ce matin, et de Lyon, enfin des régions.
De Clermont-Ferrand aussi, et même des Bretons. Rien d'étonnant pour Jean-Jacques Faure, producteur de canard dans le Lot.
Ils trouvent ici un produit de qualité, quoi.
Même si pour ces premières foires grasses, leur panier est moins lourd.
Ils étalent un peu, on sent bien que les gens font attention, sont prudents.
C'est la technique de Lorraine pour surveiller son portefeuille.
Là, je suis plus en repérage parce que bon... tout est un peu cher quand même.
Lorraine a déjà pris un foie gras, ça reste l'incontournable des foires.
C'est le produit qui fait plaisir et comme
Jean-Jacques
dites,
Faure
apporte de la bonne humeur, de la gaieté. C'est,
on en a besoin.
On en a besoin par les temps qui courent. Voilà. On en a besoin.
Voilà, reportage de Selma Rich ici Limousin pour France Info.
France Info Météo, avec le CIC, entreprise à mission, s'engager à ne pas commercialiser les données de ses clients, c'est ça construire pour que le monde bouge.
Et après la neige, place à la pluie, Patricia Charbonnier.
Le temps restera gris et pluvieux aujourd'hui sur une bonne partie du pays. La neige laisse place à la pluie avec cette dégradation pluvieuse qui traverse le pays d'ouest en est. On va retrouver cette zone de pluie cet après-midi entre les frontières du Nord, la Bourgogne, la Franche-Comté, le centre-Val de Loire, le massif central et le sud-ouest avec de bonnes rafales de vent, en particulier sur les côtes atlantiques. Le temps reste sec près des frontières de l'est, mais le ciel est couvert et sur le nord-ouest du pays, nous aurons un ciel de traîne cet après-midi avec de nombreux nuages, quelques averses. C'est des températures très contrastées. L'air froid résiste encore sur l'est du pays avec 3 degrés cet après-midi à Strasbourg, 6 degrés à Lyon, 7 à Lille. Mais le redoux se confirme par l'ouest